Alors en ce début du mois de juillet, il est bon d'entendre parler de repos. Certains d'entre nous sont déjà partis en vacances, d'autres vont attendre un peu plus tard, peut-être le mois d'août. Et puis parmi ceux qui prennent des congés, eh bien certains vont rester à Montrouge, dans les environs. Mais la parole de Jésus évoque un autre repos, celui qu'on trouve quand on est auprès de quelqu'un qui nous fait du bien, quel que soit le lieu où nous sommes. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai le repos. Alors on se reconnaît assez bien dans ceux qui peinent, en tout cas pour ma part, et qui ont un fardeau, surtout en cette fin d'année. C'est vrai que nous sentons la fatigue de l'année qui est passée. Quand j'ai revu un peu l'année, on a eu quand même les grèves cet hiver, qui nous a bien fatigués, qui a aussi mis pas mal de freins à nos activités. Et puis ce printemps, évidemment, le confinement qui a mobilisé énormément d'énergie pour certains, et l'énergie psychologique, morale. Et du coup, en sortant de ce confinement, on s'est rendu compte que ça mobilisait aussi beaucoup d'énergie. Du coup, on arrive un peu fatigué à cet été. Et puis, en plus de la fatigue, Jésus parle de fardeau. Un fardeau, ça peut prendre plusieurs aspects. Un fardeau, c'est un poids qui est sur les épaules. Ça peut être un souci qui ralentit nos pas. Un poids que nous traînons parfois des jours et parfois des nuits aussi. Alors, je me souviens d'un film de Colin Serrault qui s'intitule « 18 ans après ». Peut-être que vous vous rappelez, c'était la suite du film qui a eu pas mal de succès qui s'appelle « Trois hommes et un couffin ». Et dans ce film « 18 ans après », une gouvernante est invitée pour s'occuper de la maison, des enfants, etc. pendant un temps de vacances. Alors cette gouvernante était jouée par Lynn Renault et elle arrive avec des valises extrêmement lourdes. Personne ne comprend ce qu'il y a dans ces valises. Et un jour, un petit garçon nommé Amos voit par hasard le contenu des valises dans sa chambre. Et dans ce contenu, il n'y a que des pierres, des grosses pierres. Alors, on se demande ce que signifient ces pierres. Est-ce que ces pierres symbolisent sans doute des poids que cette dame emportait partout avec elle? Poids des regrets, poids des douleurs subies, poids des culpabilités. En tout cas, avec Amos, le petit garçon, elle finit par les jeter dans la rivière. Le regard simple d'un enfant nous dépouille de nos carapaces. Ce n'est pas pour rien que Jésus se réjouit auprès de Dieu en le remerciant d'avoir révélé sa parole de vie aux enfants, aux tout-petits. Les enfants reçoivent cette parole dans la simplicité et dans la confiance. Les sages et les intelligents, eux, ils savent bien détourner habilement cette parole. Ils ne la reçoivent pas. Évidemment, ce qui peut détrôner leur autorité est considéré comme dangereux. Et puis, il n'est pas bien vu non plus de fréquenter un homme, d'écouter un homme qui n'a pas vraiment bonne fréquentation. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, car je vous donnerai le repos. L'évangéliste Matthieu place ces paroles de Jésus au milieu de deux chapitres, et je me suis rendu compte que les listes du jour faisaient allègrement un saut au-dessus de ces deux chapitres, parce qu'ils ne sont pas toujours faciles à entendre, à écouter, à relire. En tout cas, je vous invite à les relire. Et ce n'est pas de repos pour Jésus non plus, ni pour ceux qui les écoutent. Alors, un peu plus haut dans le chapitre 11, Jésus constate le rejet de la bonne nouvelle. En résumé, il dit « Vous n'êtes jamais content, Jean-Baptiste est venu et vous l'avez rejeté, et le Fils de l'homme, donc moi, eh bien, je viens, vous dites de ce fils de l'humain, c'est un ami des pécheurs, il mange avec les pécheurs et vous le rejetez aussi. » Et puis ensuite, Jésus se lamente parce que les villes qui sont visitées ne reçoivent pas son message. Et puis après notre passage au chapitre suivant, au chapitre 12, les pharisiens accusent Jésus de violer la loi, car ses disciples font des choses interdites le jour du sabbat. Lui, il guérit le jour du sabbat. Et puis un peu plus loin, son identité de Messie est remise en question. La foule le reconnaît comme fils de David, mais les pharisiens l'insultent en lui disant qu'il est fils du démon. C'est dur à entendre. Oui, on accuse Jésus de transgresser le sabbat, ce jour du repos sacré. Et Jésus répond en disant « Venez à moi et je vous donnerai le repos. » Et il va le payer de sa vie. Respecter le sabbat pour respecter Dieu est remis en question par Jésus. Donner une règle est structurant, mais Jésus montre que cela est excluant. La loi a comme fonction de rappeler que Dieu existe et que respecter la loi, c'est une façon de respecter Dieu, mais la façon d'appliquer la loi a perverti l'image de Dieu. Les pharisiens se considéraient comme des gens purs, qui respectaient la loi vraiment à la lettre. Et ils voulaient guider le peuple dans cette pureté. Ça partait d'un bon sentiment, finalement. Mais Matthieu va montrer, plus loin dans son évangile, que la loi, dite par Jésus, est un fardeau et une charge qui écrase. Et Jésus dit, en parlant des pharisiens, « Ils lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, alors qu'eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. » Jésus leur reproche de ne pas emmener les gens sur un chemin de foi, mais sur un chemin qui n'a aucune cohérence. C'est pourquoi il utilise l'image du joug qui était souvent utilisée, notamment dans les commentaires rabbiniques, pour parler du joug de la loi comme quelque chose qui pèse. Jésus vient par sa vie humaine révéler un Dieu qui sauve. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. C'est le passage juste qu'on a entendu au début. Jésus vient montrer le vrai visage de Dieu. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. En citant ce passage du prophète Osée, Jésus montre que Dieu ne veut pas la perte du monde, mais qu'il soit sauvé. Dieu appelle à résister devant l'injustice et l'exclusion. Par Jésus, Dieu révèle son amour aux tout petits. Alors c'est qui ces tout petits? Ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi ceux qu'on ne voit pas. Ceux à qui on ne veut pas accorder d'attention, ceux qu'on estime inférieurs à nous, ceux qui sont bien souvent soumis à la loi du plus fort. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, pour comprendre ce qu'est ce joug, parce que je pense que le milieu agraire n'est pas forcément une spécialité de nos pays occidentaux modernes, on ne sait plus trop ce que c'est qu'un joug. C'était une pièce de bois qui était posée sur le cou des animaux pour tirer notamment la charrue. Et en fait, il y avait souvent deux emplacements dans ce joug. Voilà, vous pourrez regarder des photos sur Internet. Mais du coup, l'animal, avec ses deux emplacements, l'animal ne porte pas seul sa charge. Ils sont souvent deux. Alors, ça peut être des bœufs, par exemple. Ils sont souvent deux pour tirer. Et quand Jésus dit « Venez à moi, prenez sur vous mon joug, apprenez de moi », il nous invite, en fait, à nous attacher à lui. Il nous invite à le laisser porter avec nous notre fardeau. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui, c'est par un attachement qu'on peut trouver le repos. Et c'est la deuxième fois que Jésus parle de repos. Il nous propose de nous placer à côté de lui, lui qui est doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. C'est très rare d'entendre Jésus se nommer directement avec un qualificatif. Souvent, il parle de lui en disant « le Fils de l'homme », etc. Ou bien il va dire « Je suis le bon berger, la vigne, la lumière du monde », souvent dans l'évangile de Jean. « Je suis doux et humble de cœur. » Se placer près d'un homme doux et humble qui ne laisse pas de place à l'orgueil, c'est reposant. Il ne vient pas nous juger, mais nous offrir la libération de ce qui nous pèse. En fait, le fardeau de Jésus, eh bien, c'est d'alléger le nôtre. Porter le joug de Jésus, c'est accéder à une nouvelle compréhension de la loi, qui est une loi d'amour. Mon joug est bienfaisant et ma charge légère. Peut-être que vous trouverez d'autres traductions, mais celle-là me plaît parce qu'elle respecte plus le mot grec. La Tob, par exemple, la traduction œcuménique de la Bible, dit « Mon joug est facile à porter ». Et quand on approfondit ce sens, ce n'est pas tout à fait juste. En plus, ce joug est bienfaisant, il fait du bien, mais il n'est pas facile. On a vu aussi la semaine dernière que s'attacher à Jésus pouvait mettre en danger d'autres attachements, notamment dans la famille. Si l'on comprend le joug de Jésus comme une loi d'amour, alors c'est évidemment pour que ça nous fasse du bien. C'est un joug qui allège, qui nous libère, mais évidemment, ce n'est pas confortable. Se relier au Christ pour qu'il porte ma charge avec moi, c'est aussi apprendre l'exigence de son amour. C'est reconnaître mes limites, c'est me reconnaître pécheur et mettre mon orgueil de côté. Se relier au Christ, c'est savoir que je ne suis pas seule quand je traverse une épreuve. Je suis sauvée de ce qui m'accable. Mais je suis appelée en même temps à me mettre au service. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Nos âmes, nos esprits ont été mis à l'épreuve et pour beaucoup cela continue. Alors sommes-nous toujours enfermés dans nos carapaces ou acceptons-nous de nous ouvrir comme les plus petits, comme les enfants ? Sommes-nous recroquevillés dans nos histoires de vie ou osons-nous déposer nos fardeaux auprès du Christ qui les portera avec nous et qui nous en allégera ? Allons à Jésus-Christ et recevons ce repos. Recevons ce repos auprès du Seigneur parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin que nos forces soient renouvelées aussi pour faire reculer la désespérance dans le monde. Amen.